c'est toujours la même rengaine. Quand je dis que je suis orthophoniste, on me parle rattrapage scolaire et zozotement. Avec OrthoPower, je vous propose de rencontrer des orthophonistes du quotidien, inspirés et inspirants, qui rendent notre métier si passionnant et tellement varié. Je suis Lucie Cambray, orthophoniste et cofondatrice de SoSpeech, des orthos qui se forment autrement. Dans cet épisode, je reçois Stéphane, orthophoniste, et Jérôme, neuropsychologue, pour parler des troubles neurodéveloppementaux. On parlera parcours de soins, guidance parentale, centre référent et prise en soins pluridisciplinaire. Eh bien bonjour Stéphane, bonjour Jérôme.
Bonjour.
Bonjour.
Eh bien je suis ravie de vous accueillir sur le podcast OrthoPower qui est consacré à des domaines spécifiques de l'orthophonie. Aujourd'hui on parlera des troubles neurodéveloppementaux. C'est un domaine que je méconnais totalement, donc comme je vous disais en off, je serai encore plus tout ouïe si on peut dire, c'est pas très français mais en gros je serai très attentive. Je compte sur vous pour éclairer un peu ma vision des choses et sur ces TND, en fait. Surtout qu'il va y avoir pas mal d'événements, il me semble, dans les mois qui viennent concernant les troubles neurodéveloppementaux. Et ce qui est très intéressant avec l'entretien que vous m'avez proposé d'organiser aujourd'hui, c'est que vous avez des pratiques professionnelles complémentaires. Donc, je vous propose de vous présenter déjà pour les auditeurs, pour qu'on sache qui vous êtes.
Bonjour, moi je m'appelle Jérôme Bianchi. Je suis orthophoniste et je suis neuropsychologue, donc psychologue spécialisé en neuropsychologie. Ça va faire 15 ans que je travaille. Je travaille dans le 06 et j'ai plusieurs activités. Je travaille au centre de référence des troubles des apprentissages et du langage de l'hôpital Lamballe. Donc c'est un centre de niveau 3, un centre expert sur le plan TMD. Je suis consultant à la MDA, c'est la maison de l'autonomie, ex-MDPH, maison départementale des personnes handicapées, où j'ai un rôle d'aide, de backup pour les équipes. Je leur fais des résumés, des bilans pluridisciplinaires qui sont effectués pour un enfant afin de les éclairer un petit peu mieux sur le profil de l'enfant. J'ai une activité libérale avec 5 autres neuropsies toujours sur la région sud et je travaille avec une équipe de recherche sur la notion de repérage justement par rapport à ces TND. On a développé depuis quelques années l'outil Identidis, c'est un questionnaire d'aide au repérage des troubles du neurodéveloppement. Et on continue à développer pas mal d'outils autour de cette Identidis. Et enfin, je suis président de l'association Neurologique, qui est une association qui a pour objectif de faire la promotion, justement, de la diffusion de l'information autour des TND. Et on réalise pas mal de conférences. Enfin, c'est notre objectif, en tout cas. Et voilà pour moi.
Très bien, merci.
Alors en ce qui me concerne, du coup, Stéphane Lemaire, orthophoniste. Pour ma part, je suis diplômé, ça fait 10 ans maintenant, de la fac de Lyon. Et puis j'ai débarqué dans le sud, dans les Alpes-Maritimes, et j'ai intégré un centre hospitalier dans une unité CMP, puis et également en parallèle hôpital de jour, donc avec des prises en charge d'enfants en bas âge, à partir de un petit peu moins de 2 ans jusqu'à 7-8 ans, présentant des troubles neurodéveloppementaux au sens large, très fréquemment troubles du comportement et troubles type TSA. Une structure que j'ai quittée au bout de 3 ans, je me suis mis en libéral, mais rapidement, bon, globalement, les gens avec qui je travaillais savaient que c'était pas vraiment une dynamique dans laquelle je voulais m'enfermer, le côté libéral, donc je cherchais à rejoindre une structure. Et c'est là que j'ai été, je me suis rapproché du centre référence des troubles des apprentissages également sur Nice, où du coup j'ai rencontré Jérôme Bianchi, neuropsy, et puis toute une équipe avec qui on a vraiment pour mission de d'être en niveau vos trois centres d'expertise, comme l'a de toute façon bien expliqué Jérôme. Et tout fraîchement, j'ai quitté la structure, j'ai quitté également de toute façon même la région, et je suis maintenant en Isère. Et je m'intègre depuis, ben, même avant d'arriver sur place, dans un projet TND qui se positionne en niveau 2. Et c'est un truc dans lequel je suis à fond, et je suis très enthousiaste de m'intégrer là-dedans, parce que c'est... peut-être ce qui fait beaucoup défaut finalement dans les parcours de soins niveau 1, niveau 2, niveau 3, c'est qu'on a un peu une bascule du niveau 1 au niveau 3 instantanément. On pourra y revenir peut-être là-dessus, mais oui. Souvent cette difficulté de formaliser les niveaux 2. Et là, il y a quelque chose qui essaie de se formaliser très concrètement, de la coordination pluridisciplinaire. Donc voilà, et c'est tout frais là, je suis en train de découvrir ça.
Super. Est-ce qu'on peut déjà préciser ce que sont les parcours de soins niveau 1, niveau 2, niveau 3, pour se mettre tout de suite dans le vif du sujet ?
Ouais. En ce qui concerne, bon, Jérôme, tu complètes ou tu me corriges si je dis n'importe quoi, parce que j'ai l'habitude de dire n'importe quoi, hein, c'est fréquent. donc, il y a dans un parcours de soins, il y a trois niveaux qui vont être décrits, qui sont proposés du coup par la HAS, qui permettent en fait d'organiser ce parcours de soins et de savoir comment orienter les enfants le mieux possible. Donc c'est très bien, c'est très louable comme idée, mais ça n'empêche pas que pour les enfants, pour les patients, pour les familles, c'est très souvent, voire systématiquement, un labyrinthe de prise en charge et des parents qui se perdent très souvent. Le niveau 1, c'est en gros, c'est la première étape, c'est un enfant qui va présenter des difficultés d'apprentissage à l'école et pour lequel on va à mettre en place une prise en charge très fréquemment orthophonie, puisque on est un peu des premières lignes. On va mettre en place un suivi, puis le diagnostic est clair, la prise en charge est relativement aisée, fluide, et ça roule bien comme ça. La collaboration avec l'équipe pédagogique fonctionne et on s'en tient là, et l'enfant va pouvoir se passer d'un suivi à un moment donné. Le niveau 2, c'est quand on va solliciter une équipe pluridisciplinaire de soins médicaux, paramédicaux. Et là, on va avoir à la fois besoin d'une équipe pour dresser un diagnostic, parce que nous seuls, en tant qu'orthophoniste, je parle, on peut avoir la problématique de ne pas être certain de notre diagnostic, voire être carrément paumé dans le diagnostic. Et donc, on va solliciter des neuropsies, on va solliciter des médecins spécialisés en TND, on va solliciter psychomotes, ergo, etc., des partenaires. Et l'enfant va du coup avoir une prise en charge pluridisciplinaire. Le niveau 3, on touche en fait les problématiques les plus compliquées, c'est-à-dire à la fois en termes de diagnostic, c'est-à-dire on a vraiment du mal à poser un diagnostic clair. Et puis, souvent, on a un lien aussi avec la sévérité. C'est-à-dire, c'est des enfants, malgré les choses qui ont été mises en place, malgré tout ce qui a été déverrouillé, les prises en charge orthophoniques, les prises en charge psychomotes, etc., ben, on a un enfant qui s'en sort pas, qui doit encore avoir des adaptations, et en fait, on ne sait plus trop comment faire. Donc là, à ce moment-là, on va solliciter un niveau 3. Donc centre référence. Des centres référence, il y en a un petit peu partout en France. Bon, il y en a plusieurs dans les grosses villes. Sinon, bon, sur Nice, il y en a un seul. Sur Marseille, il y en a un. Et là, à Grenoble, il y en a un également. Et dans les niveaux 3, on a des neuropédiatres. On a des neuropsychologues. Je pense qu'on peut dire dans 100% des cas. On a des orthophonistes. Alors, en théorie, c'est dans 100% des cas, mais la réalité, c'est qu'il y a, il me semble, alors, il y a des postes qui ont été pourvus très récemment, mais il y a eu des moments à vide pour les orthos dans les centres références. On a, après, ça varie un petit peu. On peut avoir des psychomotes, mais c'est pas non plus systématique. On peut avoir des enseignants, mais c'est pas non plus systématique. Des pédopsychiatres. Qu'est-ce que j'oublie? J'oublie des gens, hein, j'en suis désolé, mais je sais que j'oublie des professions. Qu'est-ce que t'en penses?
Parfois des ergos.
Des ergos, ouais.
Voilà, mais je pense que t'as fait le tour.
Et du coup, les troubles neurodéveloppementaux, est-ce que c'est nouveau comme appellation? Est-ce qu'au niveau de la nomenclature, ça a évolué? Qu'est-ce que vous pouvez en dire concernant déjà une, une définition toute simple des troubles neurodéveloppementaux, si c'est possible d'avoir une définition simple?
Alors, un trouble neurodéveloppemental, il faut prendre le terme neurodéveloppemental qui va renvoyer en fait à deux choses. Même à trois choses, je vais rajouter une chose. La notion de trouble. La notion de trouble, elle s'écarte de la notion de retard, par exemple, de la notion de difficulté. On ne parle pas d'une difficulté de langage, on ne parle pas d'un, entre guillemets, un retard de langage, mais on va parler d'un trouble. Donc, un trouble, ça doit poser problème, ça doit être persistant. Et ça, c'est la notion de développemental. Développemental veut dire qu'en fait, le trouble a toujours été là et d'une certaine manière sera toujours là. Alors, peut-être avec un impact réduit parce que les prises en charge auront pu diminuer cet impact, mais il y a vraiment la notion de longévité du trouble, hein, en l'occurrence. Et il y a la composante en fait neuro qui explique en fait directement la composante développementale, c'est-à-dire parce que c'est neuro, parce qu'en fait l'enfant est en bonne santé. Hein, ce trouble neurodéveloppemental, c'est pas une maladie. L'enfant est en bonne santé. Le cerveau de l'enfant fonctionne bien. On va dire dans 90% de son fonctionnement, mais il y a certains modules cérébraux qui vont fonctionner différemment. Et d'une certaine manière, en fonctionnant différemment, ces modules vont impacter ce qu'on appelle des capacités cognitives. Le langage, la motricité, la lecture, le sens du nombre, les capacités exécutives, etc. Et du coup, cette famille des troubles du neurodéveloppement va comprendre en fait plusieurs entités, plusieurs troubles. On y retrouve le TDAH, donc le trouble du déficit de l'attention avec sans hyperactivité. On y retrouve le trouble du spectre de l'autisme. On y retrouve, alors anciennement appelé dysphasie, le trouble développemental du langage. On y retrouve la dyslexie. On y retrouve anciennement appelé la dyspraxie, le trouble développemental de la coordination, et on va y retrouver aussi le syndrome Gilles de la Tourette. Voilà, si je peux faire un petit résumé. Et la particularité donc de ces troubles, c'est qu'il va y avoir une variabilité de la sévérité de ces troubles. Hein, vous avez des dyslexies plus ou moins sévères, comme vous pouvez avoir un TDAH plus ou moins sévère, etc. etc. Donc, Stéphane parlait des trois niveaux et de sévérité des profils. Bah, ça va déjà se jouer à ce niveau-là. Hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir un diagnostic de TDAH, mais avoir un TDAH très sévère qui va impacter très significativement la qualité de vie de l'enfant et ou de l'adulte. Et aussi, il y a cette notion de comorbidité, hein, en ayant à l'esprit que, oui, on peut cumuler les troubles. Et que plus on va cumuler les troubles, plus ça va complexifier en fait le parcours de soins du patient. Et c'est ce qui fait aussi que sur un niveau 3, comme le centre de référence, on se retrouve très souvent en fait avec des profils assez complexes mêlant plusieurs troubles du neurodéveloppement.
Parfait. Au niveau du parcours de soins justement du patient, vous qui avez travaillé pour toi Stéphane, tu disais que tu étais en niveau 3, maintenant c'est plutôt niveau 2. Jérôme, tu travaillais en niveau 3. En gros, est-ce qu'il y a de l'attente pour une prise en soins hein, du coup de ce patient qui est adressé en général comment dire, il y a déjà quelque chose qui s'est passé en niveau 1, donc avec des prises en charge pluridisciplinaires dont vous avez parlé juste avant, des prises en soins avec de multiples professionnels de santé. Ensuite, par rapport aux différents centres de référence qui existent en France, est-ce que le parcours de soins est encore long avant d'avoir un diagnostic précis? Comment ça se passe concrètement pour le patient?
Mais je pense que, alors, je vais faire un petit commentaire, mais je pense que tu as un chiffre intéressant, c'est la moyenne d'âge des enfants accueillis sur le centre référence. Ça donne une idée, parce que c'est des enfants qui, de base, avaient des troubles. Et quand on voit, quand ils arrivent en niveau 3, on se dit, tiens, il y a eu un délai. Alors, bon, là, on touche quand même, un sujet qui fait mal hein, chez les orthophonistes, c'est l'accessibilité aux soins. On est extrêmement... Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, mais on est mauvais sans nous accuser pour autant. Hein. C'est-à-dire que c'est le système en soi qui fait que que les choses sont compliquées. Mais l'accessibilité aux soins, déjà, même en niveau 1, c'est-à-dire qu'arriver à avoir un suivi ortho pour un enfant qui présente, a priori, un trouble neurodéveloppemental plutôt bien compensé, pas sévère, on peut avoir des délais de 18 mois, quoi. Donc déjà, pour entrer sur un niveau 1. Et après, j'ai envie de dire... Une fois qu'ils ont le pied dans le niveau 1, bon, l'ortho va, je l'espère, rapidement pouvoir solliciter des professionnels en parallèle. Parce qu'en fait, il y a quelque chose d'officiel qui s'est créé, qui s'appelle les CPTS, qui est une manière de dire « les gars, vous êtes en libéral, c'est très bien, mais vous ne pouvez pas fonctionner indépendamment, vous devez vous coordonner ». Ça, c'est quelque chose, c'est une prérogative qui est relativement récente, qui est une bonne idée, à mon sens, avec évidemment des failles, mais bon, c'est sur le papier, c'est une bonne idée. Donc, à la limite, ce niveau 2, on peut se dire que si l'ortho s'est fait un réseau, connaît un petit peu les libéraux autour d'elle, de lui, on peut vite rentrer sur, il va falloir mettre en place une prise en charge psychomote, on va faire appel à un médecin. Et puis, le niveau 3, on est sur des délais qui sont parfois, parce que c'est fluctuant, mais parfois impressionnants. C'est-à-dire que à partir du moment où on a un parent qui va se dire, tiens, je vais faire la démarche du niveau 3, il faut déjà qu'il la connaisse, cette démarche. Il faut déjà que les professionnels qui le suivent soient au courant que ça existe. Et c'est peut-être bête à dire, mais il n'y a pas tous les professionnels de santé en libéral qui connaissent ces structures-là. Donc du coup, ça crée des délais. Les écoles aussi ne sont pas toujours toutes au courant. Et voilà, on peut atteindre des délais. Après, c'est peut-être pas malin de dire ça, parce que c'est vraiment extrêmement variable, mais ce n'est pas étonnant d'avoir 18 mois avant d'obtenir des rendez-vous. Donc en fait, tout ça réuni crée une sacrée lenteur dans le projet de soins. Après c'est quand même je vais quand même reprendre le côté un peu la bouteille à moitié pleine, c'est que c'est ce temps là aussi est contributif de l'acceptation du diagnostic, de la compréhension de l'enfant et de ses troubles, et de savoir comment faire. C'est-à-dire que prendre en charge de manière précoce, évidemment, la précocité de la prise en charge, c'est quelque chose de recommandé par la HS, mais du coup, il ne peut pas y avoir non plus de précipitation. Enfin, c'est un juste milieu à trouver. Ouais, voilà, c'est ce que je voulais dire principalement.
De mon côté, je parlais de la statistique tout à l'heure, on a fait une statistique, en fait, la moyenne d'âge des enfants qui arrivent en niveau 3 pour finalement obtenir un diagnostic. Cette moyenne, en fait, elle a quasiment pas changé au fil des années. On reste toujours sur du 10 ans, 10 ans et demi, 10 ans, 10 mois. Alors, c'est une statistique à prendre avec des pincettes, parce que, bien sûr, les enfants qui arrivent en niveau 3, ils ont un passif en niveau 1 à minima, quelquefois niveau 2. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas forcément sans prise en charge. Maintenant, il y a quelque chose qui a aidé aussi historiquement, et ça c'est très récent, les centres de niveau 3. Et ça fait référence davantage au TDAH, mais malgré tout, ça a encombré totalement la file active des niveaux 3. C'est qu'il y a quelques années, la première prescription de méthylphénidate, donc le traitement pour le TDAH, ne pouvait se faire qu'en milieu hospitalier. Et du coup, le côté un peu vicieux, c'est qu'on recevait beaucoup d'enfants qui n'avaient pas de profil niveau 3, mais qui étaient juste finalement à la recherche d'une solution médicamenteuse à leur TDAH. Bon, ce qui nous a beaucoup aidé malgré tout, même si ça se fait, à mon sens, en deux temps, il y a le côté légal et après, il y a le côté pratique. Le côté légal, c'est qu'il y a, je crois, 2 ans ou 2-3 ans, la loi a changé, puisque, en fait, vous pouvez avoir votre première prescription méthylphénidate en ville, hein, donc en niveau 1, mais auprès d'un médecin expert, donc pas de généraliste, mais pédiatre, neuropédiatre, pédopsychiatre. Bon, ça nous a quand même aidé. Après, c'est comme je disais en deux temps, c'est que la loi est passée, donc ça nous a quand même un petit peu aidé, parce que, en tout cas dans 06, on a toujours eu cette fibre de formation des équipes de niveau 1, notamment des médecins, donc il y a quand même pas mal de médecins qui bossent bien en libéral et qui prescrivent du coup. Mais du coup maintenant, on est en attente finalement d'un vivier de médecins qui serait capable de prendre à charge cette mission-là. Ça nous a aidés. Ce qui ne nous aide pas en l'occurrence, c'est un certain état d'esprit quelquefois de se dire on est en attente d'un diagnostic et surtout on ne fait rien en attendant. C'est-à-dire que quelquefois, alors ce n'est pas la majorité, mais malgré tout, c'est le diagnostic, ça va être le Graal, la clé qui va nous permettre de débloquer plein de trucs, un dossier MDPH, alors que c'est pas vrai, on n'a pas besoin d'un diagnostic pour un dossier MDPH, etc., etc. Et ça aussi, ça dessert énormément les patients.
Très bien, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à des orthos qui sont un peu en peine justement de savoir comment aider leurs patients par rapport à l'école, justement, quand il y a des aménagements à proposer et tout ça, on suppose qu'il vaut mieux connaître tous les outils, tous les aménagements que l'on peut proposer en réunion pluridisciplinaire à l'école. Tout ça, vous maîtrisez, du coup, les différents outils, les différents projets individuels avec l'enfant. Les acronymes changent parfois. Est-ce que vous voulez en parler un petit peu?
Bon, déjà, je pense que la première des choses, c'est que il faut qu'on fasse partie du projet scolaire. Nous, en tant que équipe, enfin en tant que membre d'un projet de soins, c'est-à-dire que c'est intimement lié et faire l'illusion ou avoir l'illusion que on peut dissocier. Je crois que ça marche pas bien. Historiquement, de toute façon, les orthophonistes, à un moment donné, sont venus prendre un peu du territoire concernant la dyslexie parce que c'était plus des équipes qui étaient embauchées par l'éducation nationale qui géraient ça. Donc, il faut pas se voiler la face. Je pense qu'il y a un énorme complexe des orthos qui... On est peut-être en train de passer ça, mais qui veulent pas être pris pour du soutien scolaire et du coup on veut créer une frontière, mais cette frontière elle a pas lieu d'exister. Enfin, la collaboration elle est juste indispensable et du coup pour collaborer il faut effectivement connaître. Je pense que c'est peut-être l'origine première de notre démarche. Du podcast, c'est il faut connaître exactement le système, les aides qui sont possibles, les choses qu'il y a à mettre en place et est-ce que ça implique. Il y a par exemple un truc qui est très très insidieux, c'est que les écoles primaires vont souvent officieusement faire des adaptations. Les enseignants sont juste pas bêtes. Ils voient un enfant en difficulté, ils vont officieusement, implicitement, ils vont faire quelque chose. Ils vont rarement se borner à dire bah non, lui c'est bon, il comprend pas, tu vas te mettre au fond de la classe et tu fais rien. On pourrait parler de ces enseignants là, mais je pense pas que ce soit la majorité. Donc il y a une dynamique d'adaptation. Donc ça super. Nous on doit avec notre humble regard de spécialiste du langage, on va donner des éléments pour oui, bah ce serait peut-être malin d'essayer ça, cet enfant-là, ça pourrait être bien de faire ça, etc., etc. Mais en fait, il y a quelque chose qui est super important, c'est qu'il existe des PPRE, il existe des PAP, il existe des PPS, et tout ça, ça doit être considéré. Et moi, j'ai un peu cette sensation que les enseignants risquent d'avoir un peu le regard de dire « Mais c'est bon, je n'ai pas besoin de toute cette machine administrative pour aider l'enfant. »
Sauf que quand c'est acté, on sait que tout le monde est d'accord. Ça a été co-construit. On espère que ça a été co-construit, que tout le monde est d'accord. Et comme c'est acté, il y a vraiment une trace, un projet qui a été défini.
Exactement. Et du coup, ça dépasse les individus. Mmh. Ça dépasse l'enseignant qui a un jour s'est dit « je vais adapter ça comme ça », ça dépasse l'orthophoniste qui va peut-être s'arrêter pour X raison et le patient va aller voir un autre orthophoniste ou va s'arrêter, ça dépasse tout ça. Ça dépasse les individus et ça, c'est pour, à mon sens, c'est primordial parce que le voir les patients qui disent ben super, grâce à ce prof-là, grâce à cet enseignant-là, j'avais pas la boule pour la boule au ventre pour aller à l'école. Et puis là, cette année, je vais avoir un tel au secours, c'est la catastrophe. Et en fait, c'est peut-être un peu naïf, mais quand même. C'est une manière de dire non, mais attends, il y a quelque chose, il y a une reconnaissance sociale. Et pour moi, les arguments de dire oui, on va pas mettre des étiquettes sur les enfants, ça c'est non recevable. C'est que les enfants ont besoin d'être reconnus dans leurs difficultés ou leur, enfin, en l'occurrence dans leurs troubles. Ils ont, ça me paraît indispensable d'avoir une reconnaissance et enfin ça, de toute façon ça se voit quand on l'explique aux enfants quand nous avec Jérôme on fait des retours des co-consultes pour débriefer d'une journée d'HDJ et qu'on explique à l'enfant son trouble déficitaire de l'attention et qu'il nous regarde avec la larme à l'œil et que pour une fois on lui a pas dit non mais c'est parce qu'en fait tu fais pas d'effort il faudrait quand même que tu décides d'arrêter d'être feignant. Donc, il y a quand même ça qui est vachement, vachement important. Donc, ces choses-là, c'est parler du PPRE, le mettre en place. Le PAP, c'est quand il y a un diagnostic. Il faut avoir un diagnostic pour mettre en place le PAP. Et ben, on y va, quoi. On y va. Il faut surtout pas.
On va rappeler
Ouais,
si tu
pardon.
es d'accord, Stéphane, ou alors Jérôme, ce que ça veut dire PPRE, PAP, PPS, pour les personnes qui seraient non sensibilisés à ces acronymes, tout simplement parce que ça n'est pas partie de leur vie et que même professionnelle et que en tant que parent par exemple ou juste auditeur, ils s'intéressent à ce qui peut être proposé comme aménagement sans forcément rentrer dans les détails, mais à quoi
Bien
ça
sûr.
correspond en fait?
Alors, c'est tout simple. Le PPRE, c'est la première marche de l'escalier. C'est le projet personnalisé de réussite éducative. Ça veut dire que nous n'avons pas besoin d'un diagnostic pour avoir accès à un PPRE. Le PPRE, il est activé par l'école. Donc, ce n'est pas à la demande de la famille que s'active un PPRE. C'est justement, comme le disait Stéphane, l'enseignant, il repère qu'un enfant est en difficulté, il active un PPRE pour formaliser en fait l'aide que va pouvoir lui apporter l'école. OK, ça c'est la première chose. Deuxième palier, c'est le PAP, le projet d'aide personnalisée. Le PAP, il nous faut un diagnostic. D'ailleurs, dans la définition, alors sur le terrain c'est un peu différent, mais en tout cas dans la définition, il faut que ce soit le médecin scolaire qui, à l'appui des bilans qui ont été faits en niveau 1 par exemple, déclenche le PAP. D'accord? Donc ça, c'est à la demande de la famille, le PAP. Mais il faut que ce soit validé par l'autorité médicale. Donc là, pour avoir un PAP, ça vous ouvre, on va dire, des adaptations supplémentaires du PPRE, notamment l'outil informatique. Si vous voulez, parce que vous êtes dysgraphique, un ordinateur, bah, vous pouvez pas passer par le PPRE. Oui, bien sûr, vous pouvez passer par l'enseignant qui a bien compris que l'ordinateur, ça allait aider et qui va simplement lui permettre de l'utiliser. Mais si vous voulez formaliser ça autour d'un dispositif, c'est le PAP. Et ensuite, on va passer vers le PPS, donc le projet personnalisé de scolarisation, qui là dépend directement de la MDPH. Donc, ça veut dire qu'on rentre dans la notion de handicap. D'accord? Et là, pour le coup, c'est un dispositif donc, qui est fait à la demande des parents, comme le PAP, qui sollicite non pas le médecin scolaire, mais le RSH, donc l'enseignant référent handicap, qui est en fait la personne qui va faire le lien entre l'école, la MDPH et la famille. Ça va être le chef d'orchestre qui va centraliser en fait les besoins de l'enfant et par rapport à son handicap. Et c'est le dispositif qui ouvre tous les autres droits qui sont déjà ouverts avec le PPRE, c'est qui peut le plus, peu le moins, hein, mais qui va ouvrir bien sûr d'autres droits, notamment bien sûr l'aide humaine sur le plan scolaire, donc l'AVS ou l'AESH ou l'AHEH selon les acronymes, mais en tout cas une aide humaine sur le plan scolaire, et qui va pouvoir aussi ouvrir à d'autres droits, des droits financiers notamment. Donc là, c'est la MDPH. Mais ça nécessite bien sûr que la famille monte un dossier MDPH et que la MDPH reconnaisse le handicap. Et je termine par ça, c'est que la notion de handicap ne dépend pas du diagnostic dans les TND. D'accord.
C'est bien de le rappeler, en effet.
Oui, c'est important parce que quelquefois, les gens pensent qu'il faut absolument un bilan neuropsychologique. Non, il ne faut pas absolument un bilan neuropsychologique pour avoir un dossier MDPH. Il faut que la MDPH puisse se rendre compte de l'impact. On parlait de troubles tout à l'heure et d'impact sur la vie quotidienne. Bah, c'est exactement ça. Vous avez des enfants dyslexiques qui ne sont pas dans le champ du handicap, vous avez des enfants dyslexiques qui sont dans le champ du handicap parce que la sévérité, parce que le contexte, l'impact psychologique fait que bah, ça rend le profil plus sévère, etc.
Et donc tous les deux, vous travaillez un peu en parallèle, en regard croisé. On aime bien évoquer ça dans le milieu paramédical et médical, regard croisé avec des pratiques, chacun votre pratique spécifique. Tu évoquais, toi, Stéphane, tout à l'heure, le fait que vous expliquiez, par exemple, à un enfant qui a un TDAH, ce qui fait partie de ses spécificité en fait de comportement ou de fonctionnement plutôt, comment vous parvenez à définir votre rôle respectif l'un et l'autre, si vous avez ce patient en commun par exemple, est-ce que vous expliquez à cet enfant ce que l'un et l'autre vous allez pouvoir lui proposer comme prise en soin? Est-ce que c'est déjà arrivé que vous ayez un patient en commun?
Oui, on a déjà eu un patient en commun. Alors, peut-être je vais préciser quelque chose qu'on n'a pas encore dit. Dans les centres références, il n'y a pas de suivi.
Oui, tu viens de préciser.
Donc, ça va être uniquement des évaluations pour établir un diagnostic et un projet de soins et un projet scolaire. Donc, il n'y a pas, y a pas y a, oh, je vais dire rarement, parce que je ne veux pas parler au nom de tous les CERTA. Je sais qu'il y a certains CERTA qui mettent en place quand même des projets type Barclay ou apparenté. Y a des choses comme ça. Mais bon, moi, je pense que, en fait, surtout, ce qui est important, c'est de connaître l'interlocuteur et sa spécificité. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai tendance à dire très sommairement aux parents et aux patients, c'est concrètement, le neuropsy, il va décortiquer le cerveau. Il connaît le cerveau. Il connaît le cerveau parce qu'il va aller s'occuper du langage, il va aller regarder comment ça se passe, il va s'occuper des compétences visio-spatiales, il va s'occuper de la mémoire, il va s'occuper des capacités non-verbales, de raisonnement, etc., etc. Et puis j'en reste à peu près à ça, parce que si le parent va solliciter un neuropsy, le neuropsy prendra en charge d'expliquer en détail qui il est et ce qu'il va pouvoir faire. Et en revanche, ce que je dis, c'est que je vais dire, mais bon, le neuropsy, il est bien gentil dans son évaluation du langage oral ou écrit, mais le pauvre, il sait pas grand-chose quand même du langage oral et du langage
Sympa.
écrit. Nous,
Tu
on a
regrettes pas
cette
d'être venu,
expertise.
Jérôme?
Nous, on a cette expertise-là, et c'est en ça que ça va être complémentaire. C'est intéressant parce que là, très récemment, j'ai eu une demande de bilan, et étonnamment, c'est vraiment pas fréquent, le patient était d'abord passé par un bilan neuropsy. Et souvent, on est un peu première ligne, on est un peu les orthos en maternelle, le petit qui a du mal à parler, on va solliciter l'ortho, c'est plus facile parce que c'est un accès aux soins plus facile en termes de économique,
Oui.
et puis on connaît l'orthophonie. Neuropsy, il y a un petit peu moins. Et donc là, c'était un parcours presque inversé, j'ai envie de dire, où l'enfant n'avait eu aucune démarche de soins, juste une mise au point sur le côté neuropsy. Et le neuropsy a dit, oh là là, il va falloir faire un bilan ortho. Et le père me demande vraiment. Et ça m'a surpris, et en même temps, c'est pourquoi pas, c'est évident. On sentait vraiment un papa qui rentrait dans un système ultra nébuleux, et il était là vraiment à questionner. Mais tiens, mais du coup, vous êtes orthophoniste, mais ça va servir à quoi? En
Oui,
fait, vous
en quoi ça
allez
nous
refaire
concerne
la
en
même
fait.
chose que,
Oui.
ouais, vous allez refaire le même bilan que le neuropsy. Vous allez donner un avis, un second avis. Vous allez donner un avis complémentaire, et donc c'est là où vraiment je disais, bah, moi, ma spécificité, c'est d'aller là où apparemment ça a l'air de faire mal dans l'évaluation neuropsy. Le neuropsy, ce qu'il a dit, c'est que vous avez un petit gars qui était intelligent, c'est super, qu'il avait différents indices qui montraient que ça fonctionnait bien, ça fonctionnait bien, etc., etc. Mais au vu de la plainte, au vu des problématiques scolaires, au vu de certains résultats, il y a l'air d'avoir une problématique sur l'aspect langagier au sens large du terme. Mmh. Et en l'occurrence, le petit gars de presque 8 ans a tout le profil d'une dyslexie. Mmh. Et ça, pour moi, c'est là où c'est ultra pertinent. Je suis un peu extrémiste sur ce concept-là, mais ça me paraît tellement plus pertinent d'avoir un regard croisé que de faire sa démarche tout seul dans son coin.
Oui, puis on est très vite limité finalement quand on peut avoir justement cette richesse d'un point de vue d'un collègue d'un autre domaine, ça peut être hyper complémentaire et très très éclairant justement.
Bah ouais.
Si je peux compléter, je suis tout à fait d'accord avec toi. Sur l'aspect langagier, c'est vrai que ça nous arrive d'utiliser des épreuves langagières, mais on n'a pas cette expertise, on n'est pas expert du langage. On va dire que le bilan neuropsychologique, il est peut-être un petit peu plus généraliste. On va aller peut-être plus loin sur certains concepts cognitifs, mais bon, en tout cas pour ce qui concerne le langage, voilà, on va avoir un regard clinique. On va avoir surtout un regard clinique en fait, et les éléments de l'anamnèse qui vont nous indiquer si bon il y a peut-être une problématique, et on va renvoyer le ballon donc à l'expert du langage entre autres, donc l'orthophoniste. La base du bilan neuropsychologique, je le dis parce que tu as donné le mot intelligence, c'est que dans les TND, c'est quand même important d'évaluer les capacités intellectuelles. Déjà pour évaluer le potentiel de compensation, quelquefois présent, pas présent, pour statuer sur le diagnostic aussi, se dire est-ce que on est sur un trouble plutôt spécifique, est-ce qu'on est sur, ou alors je l'ai pas dit tout à l'heure, voilà, je fais le lien maintenant. Parmi les TND, on a aussi le handicap intellectuel. Donc nous, ça fait partie de notre base d'évaluation, et au-delà de ça, le bilan intellectuel, c'est un bilan qui est relativement long. Ça nous donne une puissance clinique assez importante. On a le temps de voir, de discuter avec le patient et voilà, un bilan neuropsychologique, c'est long, c'est une journée de passation, une journée et demie à voir. Et je voulais aussi rebondir sur l'aspect, quand tu disais tout à l'heure, Stéphane, bah, quand j'ai expliqué au patient en fait son trouble, ça l'a ému. Et en fait, je fais le pont avec les enseignants. Parce que moi, c'est perso dans ma pratique, je donne plus forcément une liste de recommandations aux enseignants face à un trouble, parce que je pense que la psychoéducation, c'est l'avenir. C'est-à-dire que les enseignants, comme tu disais Stéphane, ils vont commencer à adapter un peu naturellement. Mmh. Ils ont quelquefois besoin de certaines petites clés, hein, effectivement, mais pas d'une liste longue comme le bras qu'on peut se trouver sur Internet, qu'on fait des copier-coller, etc. Et au final, ce qui est important pour les enseignants, comme pour les parents, comme pour le patient, c'est de devenir plus expert des difficultés. C'est-à-dire que cet enfant, il a une dyslexie, mais ça veut dire quoi une dyslexie ? C'est quoi une dyslexie ? Et il y a un imaginaire un peu collectif, la dyslexie, c'est les lettres qui se tournent comme ça visuellement et on n'arrive plus à lire. Le TDAH, c'est dans l'imaginaire collectif, forcément, une espèce de Tasmania qui va retourner un bureau ou qui va pas pouvoir se concentrer pendant 2 secondes. Tout ça, c'est des neuromythes. Et tant qu'on est dans les neuromythes, on comprend pas, et c'est quand on comprend pas qu'on n'adapte pas et qu'on n'avance pas. Donc je dirais que vraiment le plus gros des leviers, c'est la psychoéducation, et c'est un peu ce qu'on a tenté de faire quand on travaillait ensemble auprès des patients. C'est ce temps passé avec les gens, et on se dit finalement c'est pas du temps perdu, c'est du temps réinjecté, investi dans une meilleure compréhension, du coup dans des gens qui vont mieux s'orienter dans le parcours de soins, un enfant qui va peut-être s'apaiser en se disant je suis pas débile quoi. Mmh. Voilà, c'est juste qu'on m'a expliqué que ça c'était pas ma faute et j'y pouvais rien, et que finalement les dictées c'est peut-être pas mon super pouvoir quoi. Voilà.
Et ça rassure vraiment les patients que peu importe l'âge qu'ils ont en fait, de leur dire c'est pas de votre faute, vous êtes d'intelligence normale, Les troubles que vous présentez, les difficultés que vous présentez, ça peut être expliqué par ça, par ça, par un fonctionnement particulier du cerveau. Et du coup, est-ce que vous vous engagez un peu à dire qu'on va essayer de trouver ensemble en neuropsy ou en orthophonie des aménagements, des petites aides pour faciliter, pour lever un peu la compensation, pas lever la compensation, mais en tout cas la rendre un peu plus légère, trouver ce qui lui convient le mieux pour que ça soit moins éprouvant à chaque fois lors des devoirs, lors des journées de cours.
Du côté neuropsy, les modalités d'intervention dans les prises en charge sont multiples. Mmh. Et en fait, ça va vraiment dépendre de la spécificité de la formation du neuropsy. Pour ce qui me concerne, je ne prends pas en charge les enfants, en fait, en prise en charge. Je ne fais pas de suivi, mais par contre, je fais de la guidance parentale. Mmh. Donc, à ce moment-là, je vais plutôt cibler les parents, justement pour le gain d'expertise nécessaire à finalement une modification de l'environnement qui va s'impacter forcément sur la répercussion du trouble. Après, dernière chose, c'est que d'expérience, c'est quand même pas une baguette magique de dire à un enfant, mais tu sais, t'es intelligent. Parce que vous avez quand même des enfants qui sont hyper résistants dans leur dépréciation de soi. Et même avec on les sort rarement, enfin, moi je les sors rarement, mais avec un chiffre à l'appui, ils y croient pas parce que au quotidien, en fait, lire, c'est tellement basique, ou alors la motricité, c'est tellement basique. Que je sais pas moi, le dernier de la classe, il est meilleur que moi dans ce domaine-là, c'est que vraiment je dois pas valoir grand-chose. Et donc quelquefois effectivement l'accompagnement plus sur le long terme en termes de prise en charge psy ou pas psy hein, parce que honnêtement ça peut être le rôle de l'orthophoniste selon moi hein, c'est-à-dire qu'un orthophoniste il a autant le pouvoir d'accompagnement psychologique que le psychologue que vous allez trouver en libéral.
Tu voulais rajouter quelque chose, Stéphane, ou pas du tout, par rapport à ça ?
Je pense qu'il y a un énorme enjeu sur la guidance parentale chez nous, les orthophonistes, qu'il y a plein d'orthos qui proposent des trucs super bien là-dessus, et que ça manque encore un peu de formalisation, et que j'en discutais tout à l'heure avec une étudiante, ça manque aussi de légitimité professionnelle. Il y a beaucoup de jeunes diplômés qui se sentent pas la légitimité d'intervenir auprès des parents. Mmh. Et ça, c'est un véritable frein parce que je l'entends parfaitement cette crainte. Je peux la concevoir puisque moi-même je la vis, je peux la sentir, mais en même temps, c'est tellement puissant véritablement considérer le parent dans le projet de soins et dans l'accompagnement de l'enfant. Il y a des situations particulières où l'enfant aura besoin d'avoir son espace à lui pour une prise en charge. Tout ça se discute, mais vraiment le parent partie prenante. D'autant plus que historiquement, quand même, les prises en charge très longtemps ont eu ce côté très cloisonné de parents qui ne devaient pas être vraiment considérés dans le projet puisque de toute façon, ils ne comprendraient pas vraiment ce qui se passe, quoi. Donc ça a vraiment tendance à évoluer. Il y a plein de formations d'ortho qui lancent des idées comme ça qui sont ultra pertinentes et dans différentes problématiques. Des enfants sans langage, pardon, des enfants TSA, des ados. Je sais pas si je peux citer des personnes ou des...
Oui, si tu veux. J'allais justement en citer une, entre autres, parce qu'il y en a pas mal qui font partie de toute cette mouvance maintenant, et comme tu l'évoquais, très formalisée maintenant, enfin plus formalisée que ce qu'on faisait habituellement finalement, très souvent de façon un peu spontanée, mais sans forcément avoir d'écrit scientifique sur le sujet. Là, je pense à Jérémy Perrichon, tu sais, au niveau du partenariat parental, qui a déjà participé à ce podcast sur le partenariat parental et qui anime des formations, qui est pas mal présent dans les congrès scientifiques et tout ça. Donc vraiment, il y a quelque chose qui se fait, qui est plus de l'ordre de justement de de la formalisation de tout ce qu'on peut faire de façon un peu naturelle, un peu intuitive. Moi, ça n'a jamais été très cadré, en fait, ce que je proposais en termes de guidance parentale à l'époque, partenariat parental. Mais c'est vrai qu'après, on peut tout à fait envisager que ça se passe dans n'importe quelle des prises en charge, en fait, n'importe quelle des prises en soins et dans n'importe quel domaine. Tu voulais évoquer d'autres personnes éventuellement ?
Y a le centre de formation Dialogoris qui fait énormément de choses dans ce sens-là. Il y a également Laurence Kunz qui est via Timelia, qui parle beaucoup d'accompagnement parental. Après, on a une problématique, c'est que on est conventionné et du coup, on a des règles à respecter dans les types de prise en charge. Et typiquement, je vais parler de la formation Annan, qui est une formation qui n'est pas récente, qui date quand même des années 90-2000, de Toronto, canadienne, si je ne dis pas de bêtises, et qui parle de groupes de parents et qui parle de, des pros qui vont intervenir pour driver des groupes de parents sur des stratégies de communication avec l'enfant, etc. Nous, on est tout seul en libéral, on n'a pas le droit légalement de faire ça. Ou alors si, on le fait, mais bénévolement. Bon, ça tient pas la route. Donc ça, il faut absolument que ça évolue. On doit proposer ce type de prise en charge. C'est pas comme si ça faisait 30 ans qu'on voyait que ça marchait, quoi. Donc il faut absolument le faire. En parallèle, il y a aussi des techniques très précises qui peuvent aussi faire avancer l'enfant. Enfin, concrètement, il y a quelque chose d'instrumental qui peut être travaillé. C'est-à-dire que la psychoéducation n'est pas la solution, à mon sens, à tous les problèmes. Il peut y avoir vraiment un travail spécifique. Et pour le coup, il y a également des orthos et des chercheurs qui se concentrent sur des remédiations qui ont des raisons de croire que une dyslexie peut être réparée pas sur une démarche de compensation. Il y a Gilles Leloup, Karine Eskenazi qui œuvrent là-dedans. Là, il va y avoir un congrès fin novembre sur Montpellier où justement il y a Gilles qui va intervenir et c'est des protocoles très formalisés, très standardisés qui sont super intéressants. Donc il y a aussi ça. Mm-hmm. Et proposer vraiment preuve à l'appui, puisqu'on est quand même dans une démarche BP, hein, quand on parle évidemment des familles, on est sur les préférences patients, et puis quand on veut faire des prises en charge direct et ciblé, on est sur quelque chose où on va aller vérifier si ça marche, on va mesurer l'efficacité, puis on va s'appuyer sur les preuves de la recherche, quoi. Mm-hmm. Alors des fois on se cogne les dents, ça marche pas parce que on a mal géré la planification du projet de soins, on s'est planté diagnostic, mais bon, ça à la limite, mais ça c'est notre recherche. C'est peut-être d'ailleurs ce qui est c'est un truc que je veux vraiment futurs orthos ou même peut-être des orthos actuellement, c'est au-delà de toutes de croire qu'il y a des solutions miracles, on est des chercheurs, quoi. On est des chercheurs. Notre bureau, notre cabinet, c'est un laboratoire pour les petits. Il faut qu'on cherche avec eux ce qui est efficace, quoi. Mm-hmm. Et ça, c'est génial. Enfin, c'est génial parce que concrètement, oui, très bien, on a tous nos articles de recherche, on peut aller sur Internet, hein. Mais bon, il y a le patient devant nous. Et ça, c'est... voilà.
Ce que tu évoquais par rapport à la méthode Ennen et tout ça, ça a été évoqué aussi dans d'autres épisodes de podcast avec Charlotte sur les TSA, par exemple, la prise en charge des TSA, Myriam, l'accompagnement de la famille. Je pense aussi au podcast En attendant le bilan. En attendant le bilan, c'est comment faire pour prendre déjà, pour accompagner les parents avant le bilan, pour éviter que les gens attendent pendant 2 ans sur une liste d'attente, en fait, en gros, pour qu'ils puissent déjà mettre en place des petites choses. Et donc, on a consacré un épisode avec Elsa et Carole qui avaient fait un court métrage pour le festival du film qui avait été primé. Et l'idée, c'est essayer de mettre ça, et bien de de faire reconnaître ce type de démarche et de prise en soin pour que ça soit rémunéré, conventionné et qu'on ne soit pas hors la loi quand on accueille les parents pour les soulager, les accompagner, leur donner déjà des billes et de savoir comment être avec leur enfant. Enfin, ils le savent bien sûr comment être avec leur enfant, mais par rapport aux difficultés qui sont évoquées, comment optimiser des situations, par exemple, de jeu. Enfin, voilà. Et donc, tout ça, ça a été évoqué, ça fait beaucoup sens ce que tu évoques par rapport et écho par rapport à d'autres épisodes qui ont eu lieu aussi.
Mais je pense qu'on y touche tous les orthos. On a évidemment tous la sensation clinique et les preuves que c'est ça qui fonctionne. Quoi.
Mmh. Est-ce qu'éventuellement, tous les deux, vous avez un patient auquel vous pensez, dont vous voudriez évoquer la prise en soin? On a déjà un peu évoqué la façon dont vous parliez de vos rôles respectifs en fonction de vos spécificités et de vos métiers.
Moi, le temps que tu cherches.
Vas-y. Ouais, vas-y, carrément.
Ça, c'est rapide. Hein. C'est j'ai un biais de recrutement au niveau du libéral. Je reçois beaucoup de patients TDAH au final. Et alors, c'est pas une anecdote en particulier pour un patient, mais c'est un peu d'une manière générale. Plusieurs patients qui se regroupent un peu sur cette même trajectoire de d'enfants qui sont pointés du doigt par rapport à leur comportement dit déviant, hein, mais je parle même pas d'un trouble du comportement sévère, mais ne serait-ce que d'une hyperactivité qui est assez présente, et donc des enfants qui d'une certaine manière sont pointés du doigt et avec cet impact psy dont on parle pas beaucoup, hein, mais c'est vrai que cette dépréciation de soi énorme, un impact souvent sur les apprentissages, Stéphane pourrait en parler, mais des gros TDAH avec impact sur l'acquisition de la lecture, par exemple, on en a plein, et des fois des super orthos en libéral qui font bien leur job et qui se retrouvent quand même bloqués parce que sur la demi-heure de prise en charge, bah, le gamin il va donner quoi, 2 minutes sur une demi-heure. Donc voilà, des acquisitions qui se font péniblement. Et finalement, on a parlé tout à l'heure de l'accès au diagnostic. Donc c'est déjà une première étape, ça peut être déjà un premier soulagement. Mais moi, j'ai en tête tous mes patients qui ont fini par passer donc sous traitement et qui honnêtement revivent sur plein de plans, parce qu'on pense toujours que le traitement dans le cas du TDAH, c'est le traitement pour l'école, parce qu'on prend que les jours d'école. En vrai, le traitement, c'est pas que pour l'école, c'est pour toute la vie, dans le sens où c'est pour toutes les sphères de la vie. Une situation familiale qui s'apaise, un meilleur relationnel parent-enfant, des acquisitions qui étaient complètement bloquées qui se débloquent, et finalement des adultes autour de l'enfant qui s'aperçoivent que bah, l'enfant il a d'autres qualités à paraître agité. Et voilà, moi j'ai des belles histoires comme ça qui finissent super bien avec des enfants qui arrivent à se retrouver et à se réconcilier avec eux-mêmes. Voilà, sans faire l'apologie du traitement, mais honnêtement je m'en fiche c'est pas un problème. Mais en tout cas de dire que voilà, moi c'est un petit peu ce que je vis au quotidien.
Très bien, merci Jérôme.
Bah, du coup tu m'as ouvert la porte à une anecdote. Effectivement, donc l'histoire du biais de recrutement, ça marche forcément quand on se connecte avec des professionnels quand on est en structure. Moi, bon ben bah, curieusement en libéral j'avais 80% d'enfants TSA, parce que quand j'ai quitté l'hôpital, bah c'était alors plus ou moins entendu que je prenais en charge ces enfants-là. Et puis c'est passé la même chose avec le centre référence des troubles des apprentissages. Il était entendu que ok, les profils sévères des TND. Stéphane Lemaire apparemment il savait le faire. Alors c'est rigolo parce que c'est pareil, c'est très rumeur, c'est pas très fondé tout ça, parce que moi je travaille avec mes collègues ortho et bon, il se passe, le travail est le même quoi. Mais je pense à un petit gars qui maintenant est plus petit, hein, il est au collège, il est rentré en 6e, et c'est un petit gars qui a eu un suivi ortho depuis qu'il est né, quoi. C'est des choses qui nous renvoient souvent au centre référence. On se dit, c'est pas possible. Et d'ailleurs, c'est un peu la dynamique des protocoles qui cherchent l'efficacité des prises en charge. C'est une dyslexie. Il doit pas y avoir 6 ans de prise en charge pour une dyslexie. On veut arrêter ça, quoi. Alors, évidemment, il y a de la comorbidité. Tout à l'heure, Jérôme, tu parlais de la comorbidité. Donc, cet enfant-là, il vient, Il commence avec une orthophoniste en maternelle. Il a des difficultés en langage, bon, qui pallient rapidement. Et puis, ben, forcément, pile poil, il y a la mise en place de la lecture qui est ultra complexe, mais ultra complexe. C'est une vraie, vraie, vraie difficulté pour lui. Rapidement, il y a le diagnostic qui tombe. Bon, la maman, elle n'est pas bien surprise parce qu'elle-même, elle a une dyslexie. Mais ça résiste aux prises en charge, ça résiste sérieusement. Donc c'est une maman qui va solliciter le niveau 3, c'est une warrior, ces mamans-là, ces parents-là, mais je parle de cette maman, c'est une guerrière à tout prix, quitte à se mettre l'école à dos, c'est une guerrière, avec les problématiques que ça pose quand on dit que bah, nous, ce serait cool qu'on soit en collaboration, mais vraiment une posture de « il faut que je me batte pour mon enfant ». Et donc cet enfant-là, il vient au CERTA, et puis bah, le diagnostic qui tombe, c'est qu'il y a un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Il était déjà dans une modalité niveau 2 parce qu'il avait son suivi ortho, mais il avait aussi un accompagnement neuropsy, et puis il avait même un accompagnement en parallèle avec une psychologue clinicienne. Et puis, il a eu de la psychomote à un moment donné. Bon, voilà. Et cet enfant-là, c'est vraiment une problématique qui m'intrigue toujours parce que j'ai buté sur cette prise en charge. On n'y arrivait pas. Super alliance, gamin ultra investi, ultra positif dans sa dynamique d'apprentissage, mais bon, des ruptures attentionnelles monstrueuses, et donc a été suggéré, évidemment, niveau 3, au moment où le diagnostic est tombé, a été suggéré le traitement, mais la maman était radicalement opposée. Et en fait, c'est un truc qui est super intéressant, c'est que nous, je pense qu'on a ce luxe, les orthos, de pouvoir aussi connaître souvent, on les connaît bien, ces familles. Les médecins, ils les voient peu, les voient une fois par an, une fois tous les 6 mois. On a ce luxe, je pense qu'il faut le considérer comme un luxe, voilà, on les connaît bien. Et donc, je pense que tout à l'heure, Jérôme disait, oui, on peut très bien, nous, les orthos, avoir un rôle d'écoute, une démarche psychologique pour revaloriser un petit peu l'enfant. Et là, dans une démarche de pluridisciplinarité, à un moment donné, j'ai reposé des choses avec la maman sur l'histoire du traitement. Et ça a été quelque chose de violent pour elle parce que ça lui renvoie quelque chose qu'elle voulait absolument pas tester. Mais voilà. Et là, je pense qu'on a tout notre rôle, du coup, en équipe. C'est-à-dire que moi, tout seul, parler du traitement, je trouverais ça indécent. Et complètement inadapté. Mmh. Mais là, un enfant qui fait un parcours de soins à niveau 3 et qui, moi je suis en lien avec le médecin, je suis en lien avec la neuropsy qui le suit, on se raccorde sur le diagnostic et on fait l'état des lieux. Donc pour moi, là, il n'y a pas d'histoire de territoire, de pratique en fait. Là, il y a faire état des lieux, dire bon voilà, ce traitement, on sait que ça a une forme d'efficacité, ça n'a absolument pas de magie, mais et donc ça a été très compliqué, c'est une maman qui a dit « Ouais, mais je vais vous prouver que c'est un placebo, je vais pas vous dire quand je le donne, je lui donnerai, puis vous verrez bien. »
Alors,
ça a été tellement, tellement compliqué. Et puis ce petit gars, maintenant, il est au collège et il est rejeté. Le collège veut s'en séparer.
Ah mince.
Voilà.
Et donc ouais. Le traitement, pour l'instant, n'est utilisé qu'à des fins... Enfin, en tout cas, c'est pas proposé... c'est pas accepté par les parents ou la maman, et que c'est proposé de façon... peut-être pas régulière, en tout cas c'est irrégulier.
Ben ouais. Ouais. Et puis de toute façon, le traitement, il s'installe que sous supervision du médecin.
Bien sûr.
Enfin, Jérôme, j'aime bien ton image, mais c'est pas une frestagada, quoi. Donc c'est supervisé. Il y a un médecin qui va augmenter, qui va définir le dosage, qui va augmenter progressivement et qui va demander un retour des patients et du parent pour s'assurer que c'est un traitement qui a une utilité et qui a des résultats.
Très bien.
Donc là, ça n'a absolument aucune valeur.
Bah oui. Est-ce que vous avez un livre de chevet consacré au TND, en tout cas une bible de référence que vous pourriez évoquer ici pour les personnes qui ne s'y connaissent pas dans les TND?
Oui, tout à fait. Et en plus, il est gratuit.
Génial.
Ouais. Alors, non, je fais un peu d'auto-promo, mais
C'est ton livre.
vraiment. Alors, ce n'est pas le mien, on l'a écrit donc, avec certains collègues de mon cabinet, qui, donc, mon associé, qui est aussi cofondatrice du projet Identidis. Je reviens sur mon petit projet de l'Identidis, et parmi les projets d'Identidis, on a écrit un livre de vulgarisation. Hein, donc, attention, hein, ce n'est pas un livre à destination d'un professionnel qui serait déjà dans le TND depuis 15 ans. Hein. Très concrètement, on l'a écrit à la base pour les parents,
Oui, c'est très bien.
pour les enseignants. Et donc, il s'appelle le manuel 2.0. Vous pouvez le retrouver en format PDF sur le site www.identidis.com, donc IDENTIDYS, comme identification des troubles dys. Bon, Identidis. Et moi, c'est celui que je recommande aux parents. Premier lieu, parce qu'il est gratuit déjà, et parce que bon.
Et puis si c'est simplement expliqué, c'est mieux aussi pour avoir une approche qui est tout à fait simple et concrète et pour
Voilà.
ne pas les noyer par rapport à pas mal de considérations scientifiques ou...
C'est ça. Ça balaye pas tous les TND, on balaye pas le Gilles de la Tourette, on balaye pas le handicap intellectuel, et on ne balaye pas, c'est important de le dire, le trouble du spectre de l'autisme. Pour tout le reste, on va balayer.
Très bien, super.
Pour des professionnels me concernant, je vais pas parler des bouquins sur le langage, par exemple, je laisse ça à Stéphane. Mais j'ai fait une petite découverte il y a peu de temps. Alors, c'est un livre qui est sorti il y a plus d'un an, mais je l'ai découvert il y a peu de temps, par rapport au TDAH. Et justement, un bouquin qui met un petit coup de pied dans la fourmilière sur les idées reçues, sur le TDAH. Et c'est le bouquin de Brown, Brown comme James Brown, mais c'est pas James Brown qui l'a écrit. Je t'enverrai la référence. Et c'est le sous-titre, c'est Une conception contemporaine du TDAH.
Super.
Et j'ai adoré. Ça parle traitement, ça parle habitude de vie, ça parle réel, et ça parle aussi d'un trouble qui a été considéré jusqu'alors comme quelque chose d'assez rigide, qui continue d'être considéré de manière rigide par les grandes classifications internationales comme le DSM-5, qui dit que on a trois versions du TDAH, hein, il y en a une, c'est que l'inattentif, et puis l'autre, il est que hyperactif, et puis l'autre, il est un peu des deux. Et en fait, on se rend compte que le TDAH, en fait, c'est un syndrome qui est en mouvement perpétuel, qui est en interaction aussi perpétuelle avec l'environnement, et qu'en fait, peut-être qu'un jour on se débarrassera de ce nom TDAH, qui est un terrible nom, un non-sens pour ce syndrome-là. Voilà, moi c'était mon petit coup de cœur, et puis la petite biblio pour les novices.
Parfait, super, merci beaucoup. Pour terminer, ah oui, tu voulais dire peut-être Stéphane, toi, ce qu'il y avait comme bouquin, sinon c'est déjà pas mal, hein.
Peut-être juste, alors ça concerne plus l'aspect pro. Je pense que il y a l'HAS qui décrit très bien le parcours de santé. Et bon, c'est pas super fun, hein, comme lecture, mais il y a le comment améliorer le parcours de santé d'un enfant avec troubles spécifiques du langage, des apprentissages.
Très bien.
Il y a le repérage, le diagnostic, l'évaluation pluridisciplinaire et l'accompagnement précoce. Il y a des références HAS comme ça, qui donnent toute l'histoire en fait, du repérage, de l'orientation des enfants.
Oh, super.
Et c'est des éléments qui sont récents, 2017, 2018, 2020.
Très bien.
Avec des schémas, donc c'est pas mal, parce que parler, c'est une chose, voir, c'est
Oui,
parfois mieux.
parfois c'est mieux, en effet. Enfin, en tout cas, ça peut compléter et ça peut comme ça marquer différentes personnes en fonction de leurs canaux préférentiels d'acquisition. Pour terminer, est-ce que vous avez chacun une idée de ce que ça pourrait être l'orthopower, le super pouvoir des orthophonistes? À toi, Jérôme, qui est neuropsy, selon toi, qu'est-ce qui est... La petite spécificité qui fait qu'on se démarque, nous, ortho, des autres professionnels de santé.
Pour moi, votre super pouvoir, c'est votre super spécificité. C'est-à-dire que vous êtes comme un bon restaurant. Un bon restaurant, c'est un restaurant qui n'a pas une carte de 3 km et qui vous vend du poisson, de la pizza et tout ça. Et c'est marrant parce que je me permets, c'est que on a passé des périodes où peut-être on avait tellement peur de se voir voler la vedette ou le travail par les neuropsies ou par les ergos, etc., que bah, on fait un petit peu tout. Mais moi pour moi, ce que j'adore dans votre métier, c'est votre hyper spécificité. Et ce qu'on a aussi un petit peu, mais notre bilan est tellement généraliste que certains restent très généralistes. Et moi, alors c'est une critique, je suis désolé, hein, mais c'est vrai que quand je vois des cabinets où, en termes de prise en charge, ben, on fait de la géronto, de la pédiatrie, de l'Alzheimer, de l'autisme, de la légothérapie ou je sais pas quoi, ben, moi, ça me fait penser à un restaurant d'été sur la Côte d'Azur, c'est-à-dire vraiment pas frais. Donc, voilà, moi, c'est votre super pouvoir. Je pense qu'il faut cultiver cette spécificité, même si vous n'avez pas que le langage, hein, on est d'accord. Mais moi, ça me plaît un professionnel qui se dit bah moi, je sais pas, moi, je fais de la cognition mat et je fais que de la cognition mat. Et moi, bah, voilà, je fais ça, je fais du langage oral, je fais de la déglutition, je fais de la voix, peu importe. Mais moi, ça me plaît. Ça me plaît.
On a beaucoup parlé lors de dans ces podcasts, en fait. Au départ, on n'est pas censé dire qu'on est spécialisé dans tel ou tel domaine, mais c'est la réalité du terrain. On ne peut pas malheureusement maîtriser tous les domaines de prise en soins et de prise en charge. Et donc, on a tendance, de par les formations auxquelles on participe, de par les domaines qui nous intéressent davantage, à creuser un peu plus certains domaines que d'autres. Et même si on essaie d'accueillir tout type de problématiques, on ne peut pas être aussi compétent dans tous les domaines, malheureusement. Donc c'est aussi une forme d'humilité de reconnaître que, malheureusement, par exemple, moi, j'en ai déjà parlé dans ce podcast, tout ce qui est cognition math, c'est pas du tout ce que je prends en soin et en charge, parce que ça fait 24 ans que je n'ai pas, non, peut-être je me vieillis encore un peu, mais ça fait 22 ans que je n'ai pas vu de patient, et pris de patient, et participé à des formations en cognition math. Donc du coup, je sais que je suis complètement à la ramasse sur ce domaine-là. Et donc c'est un respect pour le patient de l'envoyer dans un autre cabinet. Et toi Stéphane, du coup, ce petit super pouvoir des orthophonistes?
Alors moi, ce qui m'énerve énormément chez Jérôme, c'est qu'il a toujours la bonne image pour définir son idée, et il est particulièrement doué pour ça. Et du coup, ça va
c'est
être...
son super pouvoir, être... du coup. Hein
ouais, c'est clairement son super pouvoir. J'essaie de lui chourer les idées, mais ouais, bon. Non, mais concrètement, notre super pouvoir, c'est j'ai l'impression, c'est peut-être faux, mais c'est pas grave, c'est l'impression que j'ai. C'est sûrement nous qui connaissons, je l'ai dit tout à l'heure un peu, qui connaissons le mieux l'enfant et sa famille. Et je pense qu'on peut avoir prétendre ça en tant qu'orthophoniste, parce que il y a cet aspect, ben souvent on le voit petit, on le voit en première intention, on le voit quand le diagnostic se construit, quand les choses sont pas encore bien installées, et ça, cette richesse, et aller se mettre dans les représentations des parents, aller comprendre les représentations des parents, quand c'est des parents qui ont des cultures parfois très similaires aux nôtres, ou alors radicalement différentes. Moi je trouve ça juste trop génial, quoi, d'aller comprendre ce que une culture slave va se donner comme représentation des troubles des apprentissages, voilà. Et j'ai la prétention de croire que les orthos, on est dans le vif là-dedans, on est vraiment sur le terrain là-dedans, et ça, c'est super intéressant. Et les neuropsies, je vais faire quand même un petit les neuropsies, ils ont le super pouvoir. À l'inverse, tu vois, Jérôme, je pense que, enfin, c'est tellement sécurisant pour les orthophonistes d'avoir un regard qui a du recul et qui va pas s'enfermer dans un... Ouais, c'est de l'amour, c'est que de l'amour.
Vous pouvez vous parler, hein, voilà. Parce que même si vous êtes sur deux pistes séparées, vous pouvez vous répondre et tout ça, y a pas de problème. Hein.
Non, mais le recul, ça me va bien.
Ça te va bien?
Ça me va bien, impeccable. Oui.
Bon, bah merci à tous les deux pour cet entretien très enrichissant et très intéressant. Je partagerai du coup les différentes références que vous avez évoquées. C'était un plaisir. Je vous souhaite,
merci à toi.
Merci. Je vous souhaite une bonne continuation dans vos professions respectives, dans vos projets respectifs. Et puis, à bientôt.
À bientôt.
Merci à toi. Et merci
revoir,
pour
Jérôme.
Ton projet.
Merci. Au revoir, Stéphane. Au revoir, Jérôme.
Au revoir, ici.
Oui.
Voilà, j'espère que ce nouvel épisode d'OrthoPower vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite, d'y laisser un commentaire et une note 5 étoiles pour que notre métier soit connu et reconnu. OrthoPower.